Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
On commence avec notre journal dans le plat de résistance. Bonjour Léa.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
Ce jeudi 21 février, 200 paysans et paysannes se sont mobilisés devant le siège du géant laitier Lactalis à Laval, suite à l'appel de la Confédération paysanne.
Oui, en cause, les prix de cession du litre de lait fixés par la multinationale en ce début d'année, des prix qui ont diminué par rapport à 2023 et dont les montants sont bien inférieurs à ceux des autres laiteries, comme le précise le média reporter. Pour les manifestants et la Confédération paysanne, cette situation démontre l'inefficacité de la loi Egalim. Les revendications des agriculteurs et des agricultrices exigent une revalorisation à hauteur de 500 euros, le millier de litres, contre les 420 euros imposés par Lactalis.
De même, en Gironde, un viticulteur a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux.
Oui, il reproche à deux négociants bordelais d'avoir acheté du vin à un prix abusivement bas. Le tribunal devra se prononcer aujourd'hui en vertu des articles de la loi Egalim et déterminer si les acheteurs agricoles sont dans l'illégalité quant à leur prix de cession. Selon le journal Sud-Ouest, cela constituerait une première en France car cet article censé protéger les agriculteurs des plateformes d'achat n'avait jamais été activé. Selon l'avocat du viticulteur, ce dernier avait adressé une demande de soutien au ministère de l'Économie mais n'a reçu aucune réponse concernant sa plainte.
Et cette semaine, les mobilisations des agriculteurs et des agricultrices reprennent partout en France, juste avant le Salon de l'agriculture qui se tiendra ce samedi à Paris.
Gabriel Attal a d'ailleurs tenu une conférence de presse mercredi matin, présentant les dernières propositions du gouvernement pour répondre à la colère agricole. Il y était question notamment l'écriture d'une quatrième loi Egalim et le renforcement des sanctions appliquées aux fraudeurs. Anne Poinçon, pour Mediapart, rappelle, je cite, que les principaux objectifs de ces textes législatifs, qui est d'assurer une juste rémunération des productrices et producteurs et d'encadrer des négociations commerciales avec la grande distribution, n'ont jamais été atteints.
Et mardi dernier, l'ONG Amnesty International a publié une lettre ouverte à Emmanuel Macron.
Effectivement, cette lettre vise à demander, je cite, l'arrêt des livraisons d'armes et de matériel de guerre à Israël. Elle intervient après une pression des parlementaires et de l'ONU sur le gouvernement français et surtout après la décision de la Cour internationale de justice qui ordonne à Israël de se conformer aux obligations du respect du droit international concernant les crimes de guerre et la répression des génocides de 1948. Depuis le début de la semaine, le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a lancé des offensives meurtrières sur la ville de Rafah, devenue l'ultime refuge pour plus d'un million de Palestiniens.
L'équipe du documentariste Pierre Karl relance un appel aux dons pour le financement du prochain long métrage « Who Wants George Ibrahim Abdallah in Jail ?»
Ce film explore l'enquête journalistique démarrée il y a 5 ans qui retrace les circonstances de l'enfermement du militant communiste pro-palestinien George Ibrahim Abdallah. La Clé des Ondes est partenaire de la production du film et cet appel aux dons se clôturera le 29 février. Nous vous encourageons à y participer ou à le faire circuler sur le site cp-production.fr.
Merci beaucoup Léa pour ce journal.
Merci à toi.
Tout de suite, on revient sur les mobilisations qui ont eu lieu à Bordeaux suite à la crise institutionnelle au Sénégal, après que le président Macky Sall ait décrété le report des élections. Un reportage au micro de Gérard Clabé.
Les gars, ce qu'il faut faire, c'est saisir les opportunités. Moi, je pense aussi une opportunité pour le Sénégal. Ah ouais, si jamais on loupe le projet, on est mort pour encore 200 ans, voire 300 ans. Il faut se réveiller. Les mentalités.
C'est Ousmane Tanodien. Je suis le chargé de la communication de PASTEF Bordeaux, membre de PASTEF du parti de Ousmane Sonko.
Donc on est sur la place de la Victoire, samedi 17 février. La semaine dernière, vous étiez sur la place de la Bourse, il y avait beaucoup de monde. Donc la mobilisation se poursuit. Et durant la semaine, pourtant, des choses ont bougé, à savoir que le Conseil constitutionnel a censuré la décision de Macky Sall de ne pas tenir les élections dans le calendrier prévu. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste ?
Tout à fait. Lorsqu'on est dans une démocratie, c'est le droit qui prévaut sur les sentiments. Heureusement, au Sénégal, le droit est là. Heureusement, on a des juges constitutionnels qui sont les derniers remparts de notre démocratie. Le Conseil constitutionnel a dit le droit. Il y a aussi, on a constaté un sentiment de décrispation. Il y avait plus de 1500 détenus politiques. Aujourd'hui, nos camarades sont en train d'être libérés par le pouvoir en place qui les avait accusés de terroristes, de tout ce que vous savez, tout ce que le monde sait aujourd'hui.
Alors à propos de libération des prisonniers, en effet, vous avez dit les prisonniers politiques commencent à être libérés. Et il y en a un qui est en prison, qui pour vous est peut-être plus important que les autres, c'est Ousmane Sanko, votre leader du parti. Alors lui, libérable aussi ?
Nous avons toujours défendu la thèse selon laquelle que Ousmane Sanko a été arrêté pour des motifs politiques. Ce n'était pas pour des motifs de droit. Nous l'avons toujours défendu, nous l'avons toujours porté, nous y avons toujours cru. Et exactement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Vous savez, on a libéré, je vais prendre un exemple, une femme qui s'appelle Amidia, qui a été accusée par le procureur d'alors comme étant une femme qui finançait des activités terroristes. Elle a été chargée. Elle a été chargée lourdement. Hier, elle a été libérée par ce même procureur comme par alchimie. Donc, on peut voir que dans une démocratie, lorsqu'on n'a pas des institutions, lorsqu'on n'a pas des hommes assez à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées, le droit peut être interprété à leur guise, effectivement. Donc, c'est ce que nous continuons de défendre. Ousmane Sonko n'avait pas à être en prison. Il doit être libéré dans les plus brefs délais et que le calendrier électoral puisse suivre son cours, comme effectivement le Conseil constitutionnel a émis une injonction à l'endroit du président de la République en lui disant de façon très claire dans sa décision au considérant vain que la durée du mandat ne pouvait être prorogée au-delà du 2 avril, date butoir de la durée légale de la présidence de Macky Sall.
Et supposons que Ousmane Sanko soit libéré. Est-ce que vous êtes aussi, vous, sur une ligne, la libération ne suffira pas, il faudra aussi remettre en question sa condamnation qui l'empêche d'être candidat?
Vous savez, Ousmane Sonko, en tant qu'homme politique, est quelqu'un doté d'une certaine, d'un bon sens assez élevé. Il nous a toujours dit que je combattais personnellement le fétichisme du leader. Lorsque Ousmane Sonko a été condamné d'une peine d'inéligibilité, il a eu à prendre Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui qui porte le projet de PASTEF. Donc finalement, nous n'avons pas un problème de personne. Nous avons, et in fine, un projet politique que le moins préparé des PASTEFiens, du parti PASTEF, peut effectivement manager de façon très claire, de façon très simple, conformément aux attentes du peuple sénégalais. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Le Conseil constitutionnel ne reconnaît que les 20 candidats arrêtés dans sa liste définitive. Donc finalement, dans ce cas de figure-là, nous n'envisageons pas une élection où on mettrait d'autres candidats, même si effectivement nous croyons que Ousmane Sonko a été condamné d'une peine d'inéligibilité, quelque chose qui a été tout à fait politique. Donc finalement, nous pensons qu'aujourd'hui, notre candidat, il reste Bassirou Diomaye Faye en l'espèce.
Là, la suite, ça va être quoi pour vous?
On va continuer la mobilisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Le peuple sénégalais est très résilient, mais le peuple sénégalais reste combatif. Ils sont assez mobilisés parce qu'ils ne se laissent pas embobiner par certaines ruses politiques. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté la mobilisation, parce que nous savons que la démocratie elle n'est jamais acquise. Elle doit être maintenue à travers la mobilisation des esprits démocratiques et avisés.
Le Cherceau, je suis béglé d'adoption, mais voilà, sénégalais de nationalité, et toujours sénégalais d'ailleurs, et engagé sur les luttes à la fois syndicales, politiques de mon pays. Bon, je ne suis pas membre de n'importe de parti politique, quoi. Je suis un citoyen engagé.
Inquiet, optimiste avec les dernières évolutions, les dernières évolutions ?
Oh non, en fait, j'ai été très en colère par le geste de Macky Sall et en même temps très optimiste. Et pourquoi très optimiste ? Parce que quand il a voté son décret pour annuler 10 jours avant les élections, annuler la campagne et les élections, le peuple a eu raison de se révolter. Et les mouvements de jeunes, les partis politiques, les organisations civiles, la société civile se sont effectivement levés d'un seul tenant et ont battu effectivement le macadam, que ce soit à l'intérieur du Sénégal comme à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on attendait du Conseil constitutionnel qu'il livre sa décision. Et vraiment, le Conseil constitutionnel rétorque Macky Sall, abroge son décret et vraiment le rend encore plus bas que terre, quoi. Et aujourd'hui, même si le Conseil constitutionnel n'a pas donné de date fixe, apparemment, bon, je ne suis pas juriste, apparemment ce n'est pas de sa compétence, mais le Conseil constitutionnel dit deux choses. Une, c'est que les élections doivent effectivement se tenir avant le départ de Macky et que Macky ne peut pas aller au-delà du 2 avril. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on compte les 3 semaines de campagne électorale qui sont fixées dans la loi électorale, on a comme terme ou bien le 3 mars ou bien le 10 mars. Donc on peut espérer aujourd'hui, on attend, apparemment les membres de sa coalition ont dit qu'ils vont suivre l'avis du Conseil constitutionnel. Donc on attend effectivement. Alors toute la question est-ce qu'on part avec la même liste ou est-ce qu'on va rebattre les cartes, quoi. Je crois qu'aujourd'hui dans la vie générale, si on veut rebattre les cartes, ça va encore nous ramener plus loin, quoi. Donc si le dialogue, on ne peut pas parler de dialogue pour l'instant, on parle plus de négociation, etc. Mais si négociation a, c'est à la fois la libération des détenus politiques. Il faut savoir que des jeunes ont été libérés, mais d'après les informations qu'on a, il y a des jeunes dont on ne trouve pas trace et qui étaient en prison. Il y a des jeunes qui sont sortis avec des séquelles physiques et mentales, très très dures. Vous vous rendez compte, vous mettez des jeunes avec des violeurs, des criminels, des jeunes de 15-16 ans, et aussi qu'on libère les deux principaux leaders. C'est-à-dire qu'il y a Sonko, Ousmane Sonko et Diomaye. Alors, ils ont été surpris parce que ce n'est pas une tradition dans les partis politiques africains et même en France souvent d'avoir un deuxième homme ou une deuxième femme. Sauf que, apparemment, Pastef, que je suis un peu de près, ils avaient aussi préparé aussi au niveau de leur directoire. Ils ont aussi des gens aussi valables que Sonko. Et donc, quand ils ont arrêté Sonko, ils ont mis Diomaye en avant et après Diomaye, ils l'ont arrêté. Mais pour des futilités, quoi. Et donc, il faut effectivement qu'il les libère. Je pense que ça fait partie vraiment des négociations. Sortir les détenus politiques. Donc voilà un peu la réalité. Alors donc,